Bonjour. Oui, je vais vous parler de ces tournées réalisées par ces trois couturiers. Juste quelques mots avant de commencer. Donc, comme Sophie l'a annoncé, c'est quelque chose que j'ai repris ces quelques dernières semaines pour intervenir ici. Soyez juste un peu indulgents, c'est un travail en cours de construction. C'était un point de ma thèse que je voulais approfondir, un peu comme Marlène qui donnait rendez-vous dans un an ou après l'été. Voilà, c'est quelque chose en construction. Il peut y avoir certaines choses à préciser dans le temps. Donc voilà, c'est un work in progress. Donc voilà, je vais m'intéresser aux tournées que ces trois couturiers, Paul Poiret, Jeanne Paquin et Maggie Roof, ont entrepris aux États-Unis. C'est des tournées qui sont organisées autour de conférences et d'expositions. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'elles constituent des exemples emblématiques pour la construction du discours, par le discours d'une figure artistique. Ça, c'est justement ce qui m'intéresse par ailleurs dans ma recherche de ma thèse. C'est la mode définie et qualifiée à travers le discours, écrit ou oral, mais principalement écrit. Ce qui est intéressant ici, dans la construction de cette figure du grand couturier à travers les discours, c'est que en fait, le déplacement géographique que créent en fait ces voyages entre Paris, le contexte natif de la haute couture, et le territoire américain, avec une commercialité, je ne sais pas si on peut dire ça, assumée, c'est qu'en fait ce déplacement va être justement révélateur des stratégies, principalement d'autopromotion, qui sont à l'œuvre dans les discours de ces couturiers. Donc Poiret, Paquin et Maggie Roof vont chacun à leur tour affirmer l'essence résolument artistique de leur pratique, mais tout en ménageant les avantages commerciaux que représente pour eux une importante clientèle américaine. Ils vont devoir donc assumer cette sorte de paradoxe qui est suscité par leur situation, par ce déplacement géographique. C'est une position à tenir, une sorte de numéro d'équilibriste entre artistes désintéressés et hommes et femmes d'affaires avisés. En fait, cette tension entre art et commerce, elle a déjà été assez étudiée, assez traitée par un ensemble de chercheurs. En premier lieu, on pense à l'ouvrage de Nancy Troy, Couture Culture, mais plus récemment aux travaux de Delia Parkins, qui a notamment travaillé sur les écrits de couturiers. Je cite par exemple l'un de ses articles qui s'appelle Early 20th Century Fashion Designer Life Writing, qui est paru en 2011. Donc en fait, ces deux auteurs, principalement Nancy Troy, ont bien, brillamment analysé cette articulation entre art et commerce. Nancy Troy particulièrement sur la question de l'originalité et de sa copie. On le verra, c'est ce qui constitue en fait le cœur du sujet, notamment pour Poiret. Et donc cette articulation art-commerce est bien sûr assez centrale quand on commence à s'intéresser à une comparaison culturelle entre France et États-Unis, enfin, ce qu'on fait depuis ce matin, 9h30 donc. Et donc tout particulièrement dans le cas de la mode. Mais voilà, en me focalisant aujourd'hui sur ces tournées, je vais essayer de démontrer la manière dont les hypothèses formulées par Nancy Troy ou encore Ilia Parkins sont illustrées de manière totalement exemplaire. Mais je vais aussi essayer de comprendre comment des stratégies de cible sont pensées, les types de rhétoriques qui sont empruntées et les références convoquées pour vraiment construire cette légitimation artistique du couturier. Donc voilà, je ne prétends pas inventer ce champ de recherche, mais je vais essayer de démontrer comment les initiatives de ces trois couturiers sont des exemples emblématiques, en m'attardant notamment sur certaines stratégies. Une petite remarque sur les sources avant de commencer aussi, c'est qu'elles sont nécessairement secondaires. À savoir que je n'ai à ce jour pas retrouvé dans des archives personnelles, donc là aussi c'est peut-être un appel, les manuscrits en fait de ces conférences. Donc, par contre, il y a signé des couturiers eux-mêmes, il y a bien sûr l'autobiographie de Poiret en Habillant l'époque, dans laquelle il consacre au moins deux chapitres, à la fois à son rapport aux États-Unis et aux conférences qu'il y a données, et ensuite Maggie Roof, de son vrai nom. Marguerite Besançon de Wagner a publié L'Amérique au microscope en 1933, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je vais travailler à partir de leurs propres textes, mais ensuite principalement à travers une réception populaire dans la presse quotidienne à grand tirage. Ça va du New York Times au Boston Globe jusqu'à des titres qu'on penserait pas forcément très liées ou très préoccupées des questions des élégances parisiennes, mais vous allez le voir. Même au fin fond de l'Oregon, dans les années 30, on se préoccupe beaucoup de ce qui se passe à Paris. Et ensuite, bien sûr, la presse spécialisée comme Vogue ou Women's Wear, ou Femina en France. Donc voilà, à travers ces différentes sources, des bribes me sont parvenues et j'ai pu un peu essayer de reconstituer, bien sûr pas dans leur intégralité, mais l'essence, enfin l'esprit principal de ces conférences. Donc un peu quelques mots aussi avant de commencer pour contextualiser un peu la période qui nous intéresse ici. Finalement, ces trois couturiers ils représentent une sorte de basculement parce que les Américains n'ont pas attendu ce début du XXe siècle pour eux aller à Paris, pour eux se rendre sur le sol de la haute couture parisienne. Je vous ai mis ici un portrait de Rodman Wanamaker. On va beaucoup parler de lui, enfin on va beaucoup parler de lui dans les minutes qui viennent. C'est le fils de John Wanamaker, le fondateur du grand magasin qui a une branche donc à Philadelphie, une seconde à New York. Et il est intéressant pour nous, en plus là on l'imagine assez bien sur son paquebot qui embarque à New York. Wanamaker père en fait s'est rendu pour la première fois à Paris en 1875 quand il avait cette idée fabuleuse de créer un nouveau grand magasin avec voilà, des idées innovantes à plus d'un titre. Et en fait, son fils, qui va rejoindre la direction du grand magasin, va être envoyé dès 1881 pour travailler dans le bureau parisien de l'entreprise. C'est un bâtiment qui est dans le 9e arrondissement, rue Richer. Donc voilà, une présence et le trajet New York-Paris ou Philadelphie-Paris a été largement emprunté dès le dernier quart du 19e siècle. Alors le moment qui m'intéresse, ça va être un moment où, comme j'ai dit, une sorte de basculement progressif, cet afflux presque massif à la fois d'hommes d'affaires, de gérants de grands magasins, voire juste de clientèle très fortunée américaine, se rendait régulièrement à Paris. Mais là, voilà, on sent qu'il y a un changement. Juste une première citation qui est tirée justement d'un article du Vogue. J'ai laissé les citations en anglais, j'espère que... Mais je pense qu'il y a eu des communications en anglais aujourd'hui. Je vais essayer de parler lentement. Qui dit donc « Last spring, Monsieur Jouda, member of the House of Bernard, left the sacred confines of Paris to visit New York and observe our fashion ways. » His visit had scarce ended before Monsieur Worth, donc là je pense qu'il s'agit de Jean-Philippe Worth, appeared, and he also observed and went his way. In the autumn, Paul Poiret arrived with his charming wife, an interesting lecture and a motion picture reels of his gowns in the making. All four stirred fashion in the press to their uttermost. Donc il y a cette idée qu'en effet, Poiret va être l'un des premiers à entamer ce voyage aux États-Unis et articulé autour de nombreuses conférences, mais qu'en fait, quelques années avant lui, ou en tout cas quelques mois avant lui, il y a eu des précédents. Il y a eu donc ce monsieur Jouda, donc je ne connaissais pas du tout, de la maison Bernard, le fils, la seconde génération de Worth, et ensuite qui est venu observer. D'ailleurs, il a publié des ouvrages aux États-Unis, donc je pense qu'il y a certaines connivences avec des amis américains. Et donc voilà, Paul Poiret va suivre cette mouvance nouvelle, et lui, en tout cas, organiser davantage son voyage, qui ne sera plus juste un voyage d'observation, mais il va y être vraiment actif. Donc Poiret va se rendre aux États-Unis, pas qu'une seule fois, c'est ça qui est intéressant aussi. Il va se rendre une première fois aux États-Unis en 1913. C'est la première initiative, il va se rendre à nouveau aux États-Unis en 1922, en 1928 et sans doute encore en 1929. Ce sont des initiatives personnelles, c'est lui qui décide en tant que la tête de sa maison de couture de se rendre aux États-Unis. C'est pour bien sûr observer sur le terrain une clientèle qui est très importante pour lui. Dans le Morning Oregonian de Portland, on peut lire Poiret visits America to see what is wanted. Donc vraiment cette question d'un voyage pour aller observer ce qu'il se passe sur le terrain, comprendre ce que réclame sa clientèle américaine. Il explique ainsi, I came to America to see my friends, to observe the manner in which American women expect my designs on their own heath and in their own setting. Voilà, c'est presque une sorte, c'est presque une dimension anthropologique. Il essaie de comprendre ce que réclame dans son habitat naturel la clientèle américaine. Mais il a une autre préoccupation, et ça on le lit également dans la presse, c'est qu'il, j'ouvre les guillemets, là je cite en habillant l'époque, il explique « J'ai voulu leur faire connaître la mode française telle qu'elle est, et non pas telle qu'elle leur arrive, alambiquée et filtrée par de mauvais intermédiaires ». Donc ça, c'est quelque chose sur lequel Poiret va revenir plusieurs fois. Il n'est pas tout le temps satisfait du choix que font les acheteurs américains. Il trouve qu'ils ne choisissent pas les pièces les plus fortes, les plus extravagantes. Aujourd'hui, on dirait qu'ils choisissent la partie la plus commerciale de la collection. Peut-être un peu timoré, finalement. Donc voilà, il veut vraiment montrer aux Américains toute l'ampleur de sa collection et tout son goût personnel. Mais bien sûr, comme on le sait, le pendant de cette sorte de voyage d'inspiration, observation, ça va être la réalisation de l'ampleur que prend la copie sur le sol américain. Ça serait en tant que tel presque tout un autre sujet, mais voilà, en habillant l'époque, il explique, en rentrant en France, je créais le comité de défense de la grande couture qui ralliait tous mes collègues scandalisés par mes rapports. Donc voilà, l'histoire étant que voilà, Poiret, à New York, se rend dans plusieurs boutiques, il remarque, donc ça il l'explique très bien lui-même, il rentre dans des boutiques où il découvre voilà, avec surprise certaines robes qui portent sa griffe sans qu'elle n'ait rien à voir avec ses propres créations. Juste un petit mot sur le fait que pour Poiret, cette démarche de la tournée, du voyage, elle n'est pas seulement propre au contexte américain. Il ne se rend pas aux États-Unis juste parce qu'il est intrigué par ce qui s'y passe. Cette démarche de voyager et de montrer ses collections, elle se réalise aussi sur le territoire européen. Ici, justement, une affiche que Poiret semblait avoir commandée à Georges le Pape, spécifiquement pour son tour d'Europe en 1920. Donc voilà, une image que vous connaissez sans doute très bien. Je ne suis pas très riche non plus en images, en photographies détournées de ces grands couturiers, donc vous m'excuserez parfois pour un peu montrer le contexte. J'utilise certaines autres images, en précisant quand même qu'il ne s'agit pas du contexte américain, mais voilà, là c'est un extrait d'un album qui est donc conservé à Galliera, du voyage de Paul Poiret à Copenhague. Mais selon les commentaires et les témoignages, voilà, c'était à peu près la même entreprise. Poiret qui, la première fois, il est accompagné de Denise Poiret, mais après, voilà, il est question de ses modèles avec lui. Voilà, donc cette idée de voyager pour montrer par-delà les frontières parisiennes, par-delà les murs de la cité, du territoire natif de la haute couture, aller montrer son travail à l'étranger. Le voyage de 1913, juste une petite note également, en fait, donc c'est une initiative personnelle, comme j'ai dit, mais elle semble avoir été largement encouragée par Kurtzman. Donc là, je vous montre une image panoramique de la 5e avenue. Kurtzman, vous pouvez le discerner un peu ici. Poiret l'appelle un couturier de la 5e avenue. Clairement, c'était justement l'une de ces personnes qui se rendait souvent à Paris et qui achetait des modèles à Paul Poiret, entre autres. Donc, on comprend bien aussi l'intérêt pour ce Kurtzman en question de pouvoir pavaner dans les cercles mondains new-yorkais. Et d'ailleurs, Poiret explique qu'il le portait, je vais même vous donner la phrase exacte, il dit « Je m'étais décidé à venir à New York sur les instances de M. Kurtzman, couturier de la 5e avenue, qui me cueillit au bateau et me manifesta tout de suite l'intention de m'étreindre et de me canaliser partout. Il me portait comme une bannière, se drapait dans ma dignité et me rendait la vie impossible en m'accaparant. » Donc voilà, juste pour encore une fois situer un peu le contexte de cette première initiative. Voici quand même, j'ai quelques petites images. C'est une image qui est parue dans le Philadelphia Inquirer en septembre 13 et qui reprend le portrait de Paul Poiret arrivé tout juste à New York accompagné de Denise Poiret. On reviendra après aussi sur leur représentation et leur rôle d'ambassadeur de manière physique. L'une des dernières tournées de Poiret aux États-Unis, enfin cet ensemble de tournées vers 28-29, là c'est vraiment différent quant au contexte finalement de l'activité même de Paul Poiret, les difficultés financières qu'il a pu rencontrer dans sa propre maison. Et là les tournées, les conférences, c'est plus tant pour vanter ses collections, ça l'est bien sûr, mais ça devient un business assez lucratif parce qu'il explique lui-même qu'il gagnait jusqu'à 1000 dollars par conférence. Donc là, autant les premières conférences et tournées se concentraient sur les villes du nord-est américain, là, en 27, 28, 29, on retrouve Poiret au fin fond de l'Oklahoma, par exemple. J'y reviendrai aussi par la suite. Oui, donc là, c'est une. Pardon, je suis allée un peu vite. C'est une. Poiret va même jusqu'à Hollywood, où il rencontre Joan Crawford, et à en croire la légende au dos du cliché, cliché que, voilà, que vous pouvez retrouver sur le site de la librairie Dictate, le célèbre couturier français Paul Poiret montre à Joan Crawford la manière de créer un nouveau modèle. C'est assez charmant. Le second cas qui m'intéresse, donc, ça va être Jeanne Paquin. Jeanne Paquin, elle est au contraire de Poiret, qui avait ce projet d'établir une succursale aux États-Unis, mais c'est un projet presque un peu mort-né, qui va. Poiret Incorporated, c'est un peu voilà, un projet qui ne va pas voir. Qui ne va pas aller très très loin. En revanche, Paquin va réellement s'établir sur le sol new-yorkais et en 1912 est fondée sous l'appellation Paquin Jouarre, une maison de un magasin sur la 5e avenue encore, mais qui va pas forcément être une succursale directe, enfin qui va être une succursale de la maison parisienne, mais qui va se spécialiser dans les articles de fourrure. Donc c'est ce qu'on voit ici sur la publicité parue dans Women's Wear. C'est des fourrures artistiques. Et le nom de Jouarre, c'est celui de la belle-sœur de Jeanne Paquin. Comme vous le savez, la maison Paquin, qui avait été fondée par Isidore et Jeanne Paquin en 1891, à la mort de son mari, Jeanne Paquin va reprendre seule la direction et assurer la création. Mais elle va être secondée par son beau-frère et sa belle-sœur. On sait aussi le rôle de Jeanne Paquin dans la couture française, son implication dans l'exposition universelle de 1900 ou encore celle de Turin en 1911. Donc, quand Jeanne Paquin entame sa tournée en 1914, elle est aussi tout juste décorée de la médaille de la Légion d'honneur. Donc, c'est vraiment la grande figure de la haute couture parisienne. Mais alors voilà, c'est un peu les aléas de la recherche. Quand j'ai accepté de faire cette discussion, je me suis dit oui, formidable, la tournée de Paquin, c'est fabuleux, je vais essayer d'en savoir plus. J'avais lu pas mal de commentaires dans la presse, j'avais lu aussi des commentaires justement, par exemple chez Nancy Troy, entre autres, mais dans d'autres ouvrages historiques. Et ben, plus j'ai avancé dans mes recherches pour cette conférence, moins j'étais convaincue que Jeanne Paquin ait actuellement posé le pied sur le sol américain. Donc, en fait, c'est aussi intéressant parce qu'il y a un article dans Femina qui donc paraît en 1914 qui s'appelle La tournée du grand couturier. C'est le titre que j'ai choisi pour ma communication. Et en fait, le journaliste rencontre la grande couturière parisienne avec un C majuscule, je cite. Il l'interview, elle assure, elle reprend donc l'argument de Poiret, pardon. Oui, cette tournée était nécessaire. Il est temps de comprendre le danger qui menace la haute couture française. Nous y étions distanciés sur le marché américain, qui, comme chacun sait, est le plus important du monde. Donc, on sent Jeanne Paquin très concernée. Mais en fait, si on relit à deux fois, c'est Suzanne Jouarre qui parle. Donc, en fait, la personne qui représente les intérêts Paquin à New York et sur le territoire américain, ça va être Suzanne Jouarre. Donc, en regardant de plus près dans la presse quotidienne et dans les rapports qui sont faits des présentations, voilà, cette sorte de mélange des deux noms et des deux figures féminines est un peu troublant, mais voilà, en y allant de manière un peu plus rigoureuse, on se rend compte que ben voilà, c'est pas Paquin, même si c'est une ambassadrice de Paquin, voire même quelqu'un de sa famille. Toujours est-il que le projet est pensé conjointement par les deux femmes, donc il révèle aussi les intentions et les idées de Jeanne Paquin elle-même. Mais voilà, c'est les aléas de la recherche. Et soit dit en passant, je remarque que c'est marrant aussi parfois de voir comment une erreur est reprise un peu de manière... voilà. Donc voilà, la tournée voilà, va reprendre un peu le même chemin littéralement que les premières tournées de Paul Poiret. Suzanne Jouard va arriver à New York, donc dans la presse, à chaque fois c'est abondamment commenté, parce qu'à l'époque, l'arrivée d'un paquebot depuis l'Europe, on faisait la liste des gens qui y arrivaient, des personnalités en tout cas, qui on imagine voyager en première classe, donc tel sportif, telle chanteuse d'opéra, etc. Donc l'arrivée de Suzanne Jouard est bien commentée. Et la presse se fait le relais de cette tournée qui va donc commencer à Boston, se rendre ensuite à Philadelphie, Pittsburgh, Chicago et Boston. Donc là, on n'est pas forcément dans le cadre d'une conférence, mais on va le voir davantage, celui d'une exposition d'art, en français dans le texte. Pour revenir justement par rapport à ce lien avec la succursale présente à New York, qui elle montrait que des pièces de fourrure, l'occasion aussi de cette tournée, c'est de montrer les créations de haute couture en chaîne et trame, comme on dirait. C'est plus seulement le domaine de la fourrure, qui n'est pas la seule à l'origine du succès de Paquin. D'autres images, encore une fois, que vous pouvez retrouver à la librairie Dictat, des modèles présentés par Paquin. Donc on voit bien qu'il s'agit... Mince, j'ai mis deux fois les mêmes. Excusez-moi, qu'il s'agit non plus de modèle de fourrure. Le troisième cas qui va m'intéresser, ça va être donc celui de Maggie Roof. Maggie Roof, c'est une maison beaucoup plus jeune, c'est un peu, j'irais pas une génération après Paquin et Poiret, mais c'est une maison plus récente, puisqu'elle est fondée en 1929. Comme je l'ai dit, de son vrai nom, il n'y a pas de Maggie Roof, c'est Maggie Besançon de Wagner, de son vrai prénom Marguerite. Juste pour situer un peu, elle est la fille de monsieur et madame Besançon de Wagner, qui étaient les partenaires de Drécol. Donc en fait, elle est née vraiment au centre de la haute couture parisienne. Il dirigeait la maison Drécol lorsqu'elle a ouvert à Paris. Elle a elle-même travaillé pour la maison Drécol, et en fait, en 1929, avec son mari, elle choisit de reprendre la maison Roof, d'y ajouter son surnom au début, et voilà, et de créer une nouvelle maison de couture. Bien sûr, elle sort pas de nulle part, entre guillemets, elle a une vraie expérience à la fois familiale et elle-même de terrain, en quelque sorte, dans la maison Drécol. Je vous ai mis ici une publicité qu'on retrouve dans Women's Wear, qui en fait nous permet de prendre conscience de la manière dont la réception, l'intérêt qu'a suscité la création de cette nouvelle maison de couture. Donc voilà, là c'est une publicité, donc c'est forcément à but promotionnel, c'est pour annoncer l'ouverture de cette maison qui réalisera une combinaison rare du modernisme et de la distinction ou de l'élégance. On voit qu'il est annoncé que la personnalité de Madame Maggie Besançon de Wagner est vraiment à l'origine de l'esprit de la maison, et qu'on va pouvoir découvrir cet esprit particulier dès le défilé de ses premiers modèles. Maggie Roof, c'est aussi une tête bien faite, on aurait envie de dire. C'est quelqu'un qui fait des études. Elle a beaucoup écrit, c'est un peu comme ça que je suis arrivée à son cas. Elle a écrit donc L'Amérique au microscope, mais aussi Une philosophie de l'élégance, ainsi qu'un autre ouvrage qui a été publié d'abord anonymement, qui s'appelle Ce que j'ai vu en chiffonnant la clientèle. Donc c'est pas juste une artiste inspirée, c'est aussi une femme d'affaires, une femme consciente des enjeux économiques de son secteur. Elle va être membre de la PAIS, la protection artistique des industries saisonnières. On va la retrouver notamment pendant l'occupation, assez active auprès de Lucien Lelon pour cela. Mais pour revenir au contexte de sa tournée américaine, elle y va en tant que conseillère au commerce extérieur. Donc là, on est vraiment dans un cas différent. On est dans un cas différent parce qu'on serait presque dans une tournée de propagande, c'est-à-dire que c'est le ministère du commerce qui lui demande de venir représenter les intérêts nationaux aux États-Unis. Et donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est que le ton va vraiment changer entre un Paul Poiret qui arrive à New York et qui, en gros, traite les Américains d'ours mal léchés, inélégants et incultes. là, Maggie Roof va vraiment plus les prendre dans le sens du poil, si on peut dire, et va expliquer que au monde, il n'existe que deux femmes et toutes aussi élégantes l'une que l'autre, ça va être la française et l'américaine. Elle va être beaucoup plus pédagogue, elle va dire oui, l'origine des modes, c'est Paris, mais voici comment vous pouvez vous en inspirer. C'est vraiment un tout autre ton. C'est aussi une toute autre époque, parce que lorsqu'elle fait sa tournée en 1931, on est bien sûr dans un contexte économique qui n'est pas du tout le même que celui des années 10 ou 20, qui est donc une prospérité économique remarquable aux États-Unis, qui bénéficie voilà de cet héritage du ce qu'on aura appelé le Gilded Age à la fin du 19e siècle, des immenses fortunes qui se sont constituées. Forcément, en 1931, on est quelques années, 2 ans après le crash boursier de 1929, et on comprend bien que cette tournée, elle est aussi motivée par le fait que, je cite, « Business from the American woman has fallen off about 40%. » Donc vous comprenez bien que ce qui pousse à la fois Maggie Roof et le ministère du Commerce, c'est de chérir et de dynamiser ces échanges commerciaux avec une vraie teneur culturelle entre les deux pays, parce que c'est une source importante de revenus pour la couture française, et que là, voilà, 40% de diminution dans ce secteur. Je vais m'intéresser maintenant un peu à la cartographie qui est dessinée par ces différentes initiatives et ces différentes tournées, parce qu'en fait, les lieux choisis sont assez révélateurs, comme je l'ai annoncé, d'une stratégie de cible. Ça nous permet en fait de comprendre qui est ciblé à travers ces discours et à qui il s'adresse. Comme je l'ai brièvement expliqué, les couturiers arrivent tous à New York, ils sont annoncés dans la presse à leur descente du paquebot, qu'il s'agit de l'Île-de-France, de Provence, et ainsi de suite. Et leur parcours va suivre celui, en fait, ça va être une cartographie de des riches villes industrielles américaines, principalement du Nord-Est. Donc, comme je l'ai annoncé, Boston, Philadelphie, Cleveland, Chicago, là où réside une clientèle extrêmement fortunée qui, d'ailleurs, elle aussi ne se prive pas de se rendre à Paris. Donc voilà, hormis l'exception de Poiret que je vous avais annoncé tout à l'heure, où là il va vraiment couvrir tout le territoire un peu par un souci de rentabilité, à raison de $1000 la conférence, si on en croit ses mémoires. Voilà. Mais donc, cette cartographie dans le Nord-Est, ces parcours dans le Nord-Est, à l'intérieur de ce territoire, de ces parcours, on peut discerner 3 ensembles distincts de destinations, 3 ensembles distincts de lieux où vont se produire et où vont parler les couturiers. Le premier, qui va être propre à partager par tous, ça va être les nombreux hôtels de luxe. Donc là, ici, je vous montre le Ritz-Carlton, qui n'est pas une destination complètement étrangère à la mode, parce que à la mode franco-américaine, parce que en 1913, quand Paul Poiret vient parler au Ritz-Carlton, seulement une année et 2 ans après, on va avoir l'organisation d'un événement assez important sous le patronage de Vogue, qui s'appelle la Vogue Fashion Fête, et ensuite la Paris Fashion Fête, et ça va être des démarches organisées par Vogue pour soutenir, dans un premier temps pour affirmer la possibilité d'une industrie de la mode et d'une création de mode proprement américaine, et ensuite la Paris Fashion Fête, ça va être pour réaffirmer le soutien de Vogue à la couture française. Donc tout ça se passait au Ritz-Carlton, qui est donc un grand hôtel de luxe qui prêtait ses salons à tout ce genre d'événements. Un autre grand hôtel visité, le Blackstone Hotel à Chicago, ou encore le Somerset Hotel à Boston. Ces lieux, bien sûr, c'est pas les hôtels en tant que tels qui organisaient ces conférences. Là, on est plutôt dans le cas de figure d'organisations professionnelles, par exemple la American Silk Association, qui va faire parler Maggie Roof, ou encore tout simplement des organisations de presse qui vont louer des espaces, les grands salons. Donc là, on est typiquement dans un cas de figure d'un public professionnel, que ce soit la presse ou des membres d'associations professionnelles reliées à l'industrie de la mode, qui vont organiser des conférences, des conférences pour des gens d'un même secteur. Donc là, vraiment, on est dans la position d'auditeurs avides de paroles parisiennes, prescriptrices. Ils interrogent vraiment les couturiers sur ce qui est le bien, la bonne chose à faire, la bonne matière à soutenir, les bonnes couleurs. C'est vraiment, on serait dans l'équivalent des conférences qui peuvent être aujourd'hui tenues à première vision, par exemple. Ce serait ce genre d'équivalent historique. Un second lieu qui donc forcément va impliquer une autre dimension, ça va être ces fameux grands magasins. Le plus emblématique, c'est bien sûr Wanamaker. Je l'ai un peu annoncé avec la figure de son fils Rodman, mais le père John Wanamaker était donc ce visionnaire qui a complètement réinventé le grand magasin. Et ce qui est intéressant là, c'est que oui, bien sûr, on est dans une dimension complètement commerciale. Mais surtout, si l'on s'intéresse à la figure de Wanamaker, le rôle des grands magasins aux États-Unis, tout francophiles qu'ils étaient, pas seulement pour la beauté de l'art français, mais justement parce qu'ils se positionnaient en tant qu'importateurs du goût français, ils vont presque jouer ce rôle, un rôle presque d'éducation des foules. Si on cite Poiret dans son autobiographie, il consacre d'ailleurs un chapitre à Wanamaker, et il raconte donc à propos de cet homme: il serait superflu de dire combien il était au courant de tout et jetait à tout moment des regards et des ponts vers l'Europe dont il assimilait tous les progrès et tous les arts. On sait qu'empêcher de venir au salon annuel de peinture et de sculpture, il se faisait envoyer de Paris les catalogues qu'il lisait avidement en marquant de son crayon rouge les titres des tableaux qu'il voulait acheter. Donc il y a vraiment cette idée de, pour mieux vendre la couture parisienne et pour mieux s'affirmer en tant qu'instance légitimement élégant et français, les grands magasins vont importer, parfois de manière assez massive, comme Paul Poiret le décrit relativement aux achats de peintres impressionnistes de John Wanamaker, ils vont importer des tableaux, des sculptures, voire même des expositions clés en main. Ici, c'est une brochure éditée donc par la boutique Wanamaker, qui présente une exposition importée de toutes pièces depuis Paris, le Salon du goût français, qui a été présenté en décembre 1921. Sur d'autres grands magasins, par exemple le magasin Macy's va aussi à New York importer des morceaux de l'exposition des arts décoratifs de 1925. Donc vraiment ce rôle de à cheval entre le musée et le... Et un peu, cette figure, presque ce rôle éducatif, en tout cas, des grands magasins, est assez intéressant. Donc le fait que Poiret ou Paquin viennent parler, viennent faire une présentation au sein de ces grands magasins, bien sûr, c'est un intérêt, l'intérêt premier, il est commercial, mais il y a toujours cet arrière-plan de, c'est une démonstration, on vous explique ce que c'est que le goût français, le bon goût, il y a vraiment aussi cette dimension éducative, voire même pédagogique. Donc Wanamaker est sans doute l'exemple le plus fabuleux, mais à Boston par exemple, Paul Poiret et Jeanne Paquin également se rendent à Filene's qui existe encore, Wanamaker a fermé depuis, et qui reprend peut-être pas avec le même brio, mais qui est la famille Filene's est contemporaine de Wanamaker et partage ces nouvelles stratégies commerciales avec leurs yeux tournés vers le continent européen. La dimension pédagogique, l'endroit où on va la retrouver, c'est vraiment dans ce troisième ensemble de lieux visités qui vont être les universités. Donc ça, vraiment, on pourrait penser que là, le côté commercial et la volonté marchande, elle est complètement évacuée. Ici, c'est donc une image d'une conférence que Maggie Roof donne à Cleveland devant une assemblée de jeunes femmes. Je suis assez contente de cette image parce que c'était suite à plusieurs échanges avec un archiviste du Cleveland State University. Il ne savait même pas qu'il l'avait et il l'a sorti d'une vieille boîte. Donc voilà, grâce au séminaire, on fait des découvertes sur des images inconnues de Maggie Roof. Voilà, elle a été retouchée bien sûr pour la presse. On voit la manière dont les contrastes sont accentués. Elle était à destination du Cleveland Press, qui était voilà un journal, un quotidien local. Donc ce troisième ensemble de lieux qui sont ici, je vous montre donc Maggie Roof à Cleveland, mais Poiret et Maggie Roof également parlent à l'université de Columbia. On retrouve Poiret également, je vous avais annoncé, dans l'Oklahoma, au Oklahoma College for Women. On retrouve Maggie Roof aussi à Northwestern, qui est donc l'université de l'Illinois, avec un campus à Chicago, mais là c'est le campus de Evanston. Quand Poiret parle, c'est au Teachers College, qui est donc une branche, si je ne me trompe pas, de l'Université de Columbia. Donc là, c'est assez amusant, c'est dans la gazette qui s'appelle le Columbia Spectator, qui est un peu le journal étudiant de la faculté, sont annoncées plusieurs brèves, et le dernier petit paragraphe, on lit donc « Monsieur Paul Poiret delivered a lecture on French costume before the classes in Household Arts on Thursday. His lecture was illustrated by motion pictures. » On y reviendra. Notons donc que même s'il s'exprime dans des universités, les classes, enfin les élèves sont généralement quand même des classes de femmes. Donc là, même s'il y a cette dimension pédagogique, même si on perçoit l'université comme le lieu où la mode pourrait être complètement détachée de toutes ces velléités commerciales et traitée juste une émanation de la culture française, on retombe quand même sur une assimilation avec des préoccupations domestiques. Le household arts ne fait pas trop de mystère là-dessus. Donc voilà, je voulais un peu situer ces trois lieux, celui des grands hôtels à destination de la presse et des associations professionnelles, où là, clairement, c'est les couturiers en tant qu'hommes et femmes d'affaires qui parlent. Le second lieu qui est donc le grand magasin, qui a ce statut un peu presque hybride ou en tout cas ambigu entre, bien sûr, c'est un lieu de vente et de commerce, mais qui s'enveloppe d'une sorte d'aura artistico-pédagogique, si vous me permettez, et enfin un lieu qui est voilà, à caractère éminemment pédagogique, donc les différentes universités. Voilà, là, je me disais que c'était un peu triste ce manque d'illustrations, mis à part celle de Maggie Roof. Là encore, je vous invite à considérer ces images. C'est bien sûr Paul Poiret à Copenhague, mais on peut imaginer que les dizaines, visiblement, de conférences qu'il a pu donner dans les universités à travers le pays pouvaient peu ou prou ressembler à celles qu'il a données lors de son voyage à Copenhague. Donc toujours issu de l'album conservé au musée Galliera. Si on s'intéresse de plus près, finalement, au contenu du discours, et ce qui va m'intéresser vraiment, c'est la manière dont ces discours, ils sont complètement empreints de ce paradoxe qui est propre au processus d'artification de la mode. Et on va essayer de comprendre comment, d'une part, la réception populaire de ces discours à travers la presse est révélatrice des intentions et de la légitimation que les couturiers cherchent à obtenir. Cette artification de la presse, pour utiliser un mot un peu compliqué, mais qui veut simplement dire la manière dont la mode a pu être perçue comme une branche autonome des arts décoratifs, c'est quelque chose avec laquelle les Parisiens, ou en tout cas les Européens, peut-être de manière plus large, ont été familiarisés dès la seconde moitié du XIXe siècle. Ça passe bien sûr par les auto-affirmations de la dynastie Worth, mais ça passe plus généralement par un contexte propice à cette sorte d'étude de la mode comme un autre art industriel, un autre art appliqué à l'industrie. Voilà, donc dans le contexte français, c'est un débat ou en tout cas une conception de la mode qui est volontiers assumée. En revanche, encore une fois, ce déplacement vers le contexte américain va parfois contredire ou en tout cas compliquer cette considération. Donc c'est exactement ce que les couturiers français vont vouloir faire en arrivant aux États-Unis. C'est dire, nous sommes des artistes des modes, la mode est une forme de création. Ça, c'est des choses qu'on retrouve encore une fois pleinement expliquées chez Poiret avec beaucoup d'emphase. Je ne vois pas la différence entre moi et un peintre. Donc vraiment, toute cette construction du couturier comme artiste, elle est centrale dans l'ensemble de ses discours. Un premier point que je voulais traiter pour essayer de comprendre ce discours, ça va être la manière dont il va se produire une sorte d'assimilation physique, ce qu'on pourrait nommer une prosopopée, du couturier qui va finir par incarner l'idée même de la mode. Et là, on va vraiment être dans cette sorte de rapport presque mystique, ou en tout cas religieux, à la présence même du couturier. Ici donc encore un portrait de Maggie Roof. Quand on lit le Cleveland Press le 5 mars 1931, on lit Maggie Roof, whose name to Paris frequenting American is synonymous with fashion. Donc sous-entendu, Maggie Roof égale la mode. Une fois, cette idée, elle est largement reprise par toutes les considérations, toutes les déclarations d'une Paquin qui va dire. Dans cet article de Féminin en 1914, nous savons renouveler l'invention de la forme avec une délicatesse infinie. Nous avons des idées. En un mot, nous sommes des créateurs. Je pourrais continuer parce que vraiment, c'est la majorité des déclarations de ces couturiers qui est repris par la presse. Voilà, participe à la création de cette image. Poiret qui déclare « I am not commercial. Ladies come to me for a gown as they go to a distinguished painter to get their portraits put on canvas. I am an artist, not a dressmaker. » C'est le New York Times qui rapporte ces paroles en 1913. Mais donc, par-delà ce pouvoir de la parole, pour Maggie Roof, on a encore cette idée que Madame Roof will explain the correct way to dress and the wrong way. She will tell what is in fashion and predict what is going to be fashion's future. Donc encore une fois, on est presque face à l'image d'un oracle. On considère le couturier comme une incarnation de cette vérité de la mode. Et toutes ces paroles sont à prendre vraiment comme une valeur de vérité finalement. Mais par-delà ce pouvoir de la parole, comme je venais de l'évoquer, il y a cette idée que leur présence physique aussi se fait le relais de la personnification de la mode. C'est assez amusant parce que face à ce portrait de Maggie Roof, je pense avoir retrouvé, toujours dans Cleveland Press, la description. Donc c'est assez drôle. From the top of her navy chenille and felt beret, with its perky bow at one side, to the tip of her matching suede high-heeled pumps, Madame Roof's costume shouted Paris to station masters, red caps and travelers. De même, donc la Maggie Roof qui reprend encore une fois et qui incarne elle-même l'idée de mode, donc ça c'est assez intéressant dans le cas des femmes couturières parce qu'elles ont ce rapport vraiment beaucoup plus étroit à leur création, elles peuvent elles-mêmes incarner leur propre création. Mais pour le cas de Paul Poiret, cela est vrai également. Paul Poiret est avidement décrit par les journalistes. Et là, le portrait de lui et de Denise Poiret était accompagné de cette description un peu écourtée. He wore remarkable shoes and trousers. The trousers, grey checked, were made with heavy cuffs at the bottom. His only jewelry was a pearl stickpin and three rings on the little finger of his left hand. Donc c'est assez amusant en fait. On a ces descriptions très précises de l'apparence physique des couturiers qui en vient à être finalement un relais de ce qu'ils considèrent être cette forme de ce qu'est être la mode. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est la manière dont, par-delà ce sort de rôle d'oracle ou d'incarnation physique de la mode, les couturiers vont bien sûr essayer d'affirmer, de construire à la fois eux-mêmes à travers leur discours, comme je l'ai évoqué, mais la presse va parfaitement s'en faire le relais. Ils vont essayer d'affirmer leur affinité, leur connivence avec les pratiques propres aux avant-gardes artistiques européennes. Alors je dis que parfois elles sont pas forcément volontaires, parfois elles le sont. Le cas de la collaboration entre Léon Bakst et Jeanne Paquin est assez emblématique. Il va être avidement commenté, photographié analysé. On va d'ailleurs parfois lui reprocher d'avoir voulu collaborer avec un artiste un peu trop folklorique ou étrange. Dans le New York Times, ils sont assez durs avec cette décision. Le Vogue américain va être bien plus admiratif. Donc voilà, un premier exemple de collaboration et donc de rapprochement de la figure du grand couturier avec une personnalité de l'avant-garde européenne, en l'occurrence des ballets russes. Une autre, ça va être dans les multiples descriptions entre la commande qui est faite à un jeune architecte qui est alors tout juste sorti de l'école, parce que la commande est réalisée en 1911 pour une ouverture en 12, et le jeune Robert Mallet Stevens termine l'école spéciale d'architecture en 10. Et il va réaliser donc l'aménagement intérieur de la boutique Paquin-Jouarre à New York. Dans la presse, on explique que c'est un salon absolument moderne et une installation tout à fait française, moderne et amusante. Donc voilà, ces liens avec certaines figures de l'avant-garde sont analysés, reprises. La presse, quand Poiret arrive en 1913, ne va pas manquer de remarquer qu'il va se rendre à l'art Morichaud. Donc on sait l'impact de cette manifestation pour la familiarisation du public américain avec les avant-gardes françaises, mais il visite aussi avec Denise Poiret la galerie 291. Et donc là, on pourrait peut-être presque faire une prolongation de avec cette histoire de commande photographique. Poiret commande à Steichen, ou en tout cas, je pense que vous pourriez l'expliquer mieux que moi, les clichés parus dans Art et décoration en 1911. Donc voilà, le couturier est un peu au milieu de cette constellation d'autres créateurs. Il se met un peu, un peu comme Poiret l'a souvent fait. Il va dire, bah, finalement, on appartient au même monde, on est les mêmes. Après, ce qui m'a intéressée, c'est la manière dont la presse va un peu aller un cran plus loin et parfois un peu peut-être fantasmer certaines assimilations. Voilà, autant Paquin a choisi Robert Mallet Stevens, autant je ne sais pas à quel point Paul Poiret se réclame d'une connivence avec William Morris. Le texte est néanmoins intéressant et la théorie du Emporia Gazette du Kansas, elle mérite d'être intéressante parce qu'elle explique que finalement la manière dont Paul Poiret a essayé de dépouiller le vêtement féminin pourrait être mis sur un même niveau que la démarche de William Morris. Voilà, la citation, working as did Poiret, he banished the superficial, artificial, superfluous adornment of personal belongings. On retrouve aussi des descriptions, par exemple, dans le Boston Globe, quand Monsieur Paul Poiret is in Boston, his daring color schemes, rather startling to one uninitiated in futurism, was evidenced by his recommending for red-headed woman a purple gown. Donc voilà, Poiret est à New York, à Boston, pardon, il fait sa petite conférence et il explique à une femme qui est rousse qu'elle devrait porter une robe violette. Et le journaliste du Boston Globe voit ça comme une affirmation des principes propres au futurisme. On pourrait rétorquer que c'est plus proche de l'orphisme d'un Delaunay, mais voilà. Donc c'est assez drôle, cette manière dont, volontairement ou non, va se construire ce caractère avant-gardiste et artistique du couturier. Et il y a un rapprochement et une analyse qui mériterait d'être un peu plus, d'être davantage poussée. Je me suis référée à l'ouvrage de Jeffrey Weiss qui s'appelle « The Popular Culture of Modern Art », où en fait il va s'intéresser à la construction, à la réception des avant-gardes par la presse populaire. Il parle par exemple de Mauclerc et de son article emblématique « Le préjugé de la nouveauté dans l'art moderne », et la manière dont en France, finalement, les avant-gardes, on les a beaucoup stigmatisés par rapport à cette idée de nouveauté. On a vu ça comme des démarches promotionnelles, une sorte de démarche proche de la réclame, et cela a été assez décrié par les opposants à ces différents mouvements d'avant-garde. Et c'est intéressant de voir comment, paradoxalement, cette question de la nouveauté artistique, de l'avant-garde, elle va servir, par un drôle de jeu de boomerang finalement, à construire la légitimité artistique des couturiers. Donc dans le champ de l'art, c'est quelque chose qui est un peu décrié par une certaine presse, cette idée de toujours nouveau, d'apporter quelque chose de, voilà, de la nouveauté un peu sensationnaliste pour la promotion, pour un peu l'opportunisme que provoque cette nouveauté. Et on va parfois même aller jusqu'à traiter certains artistes avant-gardistes de chiffonniers ou de modistes. Et paradoxalement, si on retourne dans le champ de la mode, le fait de convoquer ces références avant-gardistes va au contraire non pas desservir mais légitimer le couturier en tant qu'artiste. On voit donc se dessiner tout un sort de champ théorique qui emprunte à la rhétorique de l'art. Voici un article du Vogue américain du 15 octobre 1913 où Poiret va proposer des réflexions philosophiques sur la mode. Là, le journaliste du Vogue en fait pioche dans un peu ses meilleures répliques entre guillemets d'extraits de conférences qu'il a pu donner lors de son voyage en 1913, et à partir de ça va recomposer la philosophie de l'élégance, la philosophie de la mode selon Poiret. Donc Poiret, il y aura toujours ce sort de recul où il dit c'est impossible de théoriser la mode. Il dit à la fois ça et en même temps il est assez capable de signifier en fait ce que lui considère comme la bonne manière de composer, l'attitude qu'il a envers ses créations, ainsi de suite. Donc là on n'a pas tout à fait le temps de creuser, mais voilà, se met en place toute une rhétorique propre à l'artification de la mode. Le Vogue va aussi encore un peu plus loin, et là c'est franchement amusant, c'est un peu le pendant du journaliste du Boston Globe qui voit du futurisme dans les robes de Poiret. Le Vogue, en mars 1913, va expliquer en quoi la mode va plagier le monde de l'art. Et là, c'est le cubisme qui est un peu cité à tort et à travers parfois pour expliquer certains motifs, certaines compositions propres aux couturiers parisiens, Poiret en tête. Donc là, bien sûr, c'est la presse qui impose ce point de vue-là, c'est plus tant le couturier qui le revendique. Encore 5 minutes ? Oui.
2 minutes.
2 minutes. Pardon, je suis désolée. Voilà. Pour conclure, voilà, cette construction du rôle du couturier, elle va aussi, bien sûr, être affirmée par la théâtralité de certaines des présentations. Poiret est encore une fois l'exemple emblématique parce qu'il va être dans une sorte de présentation multimédia. Il va mélanger à la fois le théâtre, la présentation de films, comme l'évoquait l'un des articles du New York Times. Il va arriver avec des bobines de Kinemacolor, un procédé de film en couleur qui va permettre d'animer ces présentations. Il va y avoir une vraie dimension performative. Paul Poiret sera sur scène. Il va montrer, il va vraiment théâtraliser l'acte créatif. Il va vraiment transformer cette sorte de révélation créative, le couturier face à son modèle et avec un bout de tissu qui va créer la nouvelle mode. Voilà, et tout cela va vraiment poursuivre et vraiment affirmer encore une fois ce caractère, ce rôle d'artiste créateur des modes. Même chose pour la tournée de Jeanne Paquin, et je finirai avec ça, parce qu'en fait on retourne à ce même paradoxe. La tournée de Jeanne Paquin, qui est donc composée d'expositions d'art, elle est encore une fois ce caractère éminemment artistique. Jeanne Paquin va expliquer que c'est un peu comme faire du théâtre. Tout le dispositif scénique de lumière va vraiment théâtraliser ce défilé de mode. Mais ce qui est intéressant et ce qui domine la presse, donc c'est d'une part le succès de ces expositions d'art, mais ça va être surtout, et là on retrouve vraiment une dimension proprement économique, voire même juridique, c'est le fait que cette exposition va faire couler beaucoup d'encre, parce que été introduits aux États-Unis sans modèle de robe, qui n'ont pas eu à payer de frais d'import et de douane. Et donc, en fait, c'est là où ce discours qui se veut artistique, qui n'arrête pas de s'affirmer comme on est une exposition, c'est comme venir à un théâtre découvrir la beauté à la française, l'acte créatif fort de Jeanne Paquin, bah en fait, ça va être... Toute l'attention, en tout cas, de la presse va être tournée sur le fait que voilà, ces robes sont rentrées sans frais de douane et que les revendeurs américains, ça leur plaît pas du tout parce qu'ils pensent que c'est une concurrence déloyale et ainsi de suite. Donc voilà, j'arrête un peu abruptement. Désolée.
des questions. Je voulais savoir si, bon, c'était pas le propos de la journée d'études, mais est-ce que ces tournées-là n'ont pas été faites en France ? Est-ce qu'ils n'ont pas pensé à faire la même chose, mais dans des villes de province, pour peut-être amener un peu de la haute couture en province, à une période où on n'avait ni la télévision, ni des médias très, très importants ?
Oui, c'est vrai que c'est une question très intéressante. Ça, je ne l'ai pas du tout rencontré. C'est vrai que l'idée, c'était toujours d'exporter un peu de capitale à capitale, de Paris à Berlin, de Paris à Copenhague. Poiret, encore une fois, est extrêmement emblématique de cette démarche. Mais Paris-Province, au contraire, j'ai l'impression que c'est toujours cette sorte de dénigrement de la place parisienne envers le reste du pays. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout eu, mais après, je n'ai pas du tout fait de recherche dans ce soir. En tout cas, ce n'est pas ressorti dans les recherches que j'ai pu mener.
Question.
Je veux savoir, par exemple, dans le cas de Paul Poiret, par exemple, la photo de la célèbre photo où il est avec, avec ses mannequins, sur le quai à Copenhague, ou ça serait
pour
non, mais peu importe, ça serait la même chose. En fait, si la photo a été prise sur un quai de gare, c'est qu'il y a eu un photographe qui est venu pour la prendre. Est-ce que c'est un photographe qui venait, qui était dépêché par un magazine, un journal, ou est-ce que c'est un photographe qui, non, je doute que ce soit un photographe qui accompagnait la troupe, mais en d'autres termes, qui assurait la communication avec tous ces organes de presse ? Est-ce que c'était des services de des organisations de relations publiques qui étaient aux États-Unis ? Ou est-ce que, par exemple, c'est les trois marques, les trois maisons dont vous avez parlé, avaient des embryons de département de ce qu'on appelait la propagande à l'époque, pour faire savoir ?
Oui, alors, je ne saurais pas vous répondre avec beaucoup de précision. Ce que j'ai pu constater, c'est que... les journalistes étaient vraiment prévenus en amont de l'arrivée des différents couturiers, et aussi bien Poiret que Maguérouf racontent à quel point, sitôt le pied posé sur le sol américain, ils sont assaillis par toute la presse locale. Après, qui a organisé cela dans le cas de Poiret, je ne sais pas. Dans le cas de Paquin, Suzanne Jouard, elle va vraiment jouer ce rôle, en fait, d'ambassadrice, en fait, de la marque aux États-Unis. Et en fait, c'est assez drôle parce que on dirait qu'une fois qu'elle a achevé sa collaboration, peut-être avec Paquin, ou en tout cas, elle prend d'autres clients, parce que dans le Women's Wear, elle glisse des petits encarts publicitaires où elle explique qu'elle peut servir de lien entre des maisons de couture françaises et le contexte américain. Donc, Suzanne Jouard a l'air de jouer d'une certaine mesure ce rôle entre RP et... Enfin, je ne sais pas trop comment on pourrait la qualifier. Oui, une directrice du département presse. Ou, voilà. Elle est vraiment plus... Elle n'est pas dans la création, elle est purement dans ses stratégies, en fait, publicitaires, pour le coup.
Par exemple, le monsieur là, qui est à droite, sur cette photo, je me suis toujours demandé qui c'était. Personne ne le sait, vous savez pas.
Les dessinateurs qui partent aussi, Georges Lepape, Benito... Là-bas, est-ce que tu as trouvé des choses ? Est-ce qu'il y a les mêmes intentions ? Parce qu'ils partent découvrir les États-Unis, alors ils sont recrutés par Condé Nast, après ils reviennent. Je sais, mais j'ai pas déterminé s'ils vont imposer leur style de dessin ou ils vont s'en inspirer. Il y a un numéro de Vogue spécial sur le pape qui découvre les États-Unis, il a accueilli comme un pacha, on l'emmène un peu dans tous les lieux, les hôtels, etc. Est-ce que tu as trouvé des liens ou pas du tout dans les...
Non, j'avoue que là, pas du tout. Non, 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 non. Mais étonnamment pas, en fait.
Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont l'attraction, je pense aussi à la modernité artistique de New York, qui les intéresse?
Oui, ce que Maguérouf, enfin même Poiret, décrit les gratte-ciels, les ascenseurs, le rapport au territoire.
Ils sont impressionnés quand même.
Oui, oui, oui. Par la ville qui dort jamais, c'est assez.
Est-ce qu'on travaille sur Schiaparelli, non? Parce qu'on a eu une obligation de venir travailler sur Schiaparelli aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale.
Alors, j'ai pas entamé de recherche en particulier sur Schiaparelli. En plus, là, dans ce cas de figure-là, c'était un peu différent parce que c'était à un moment, si je me trompe pas, c'est pendant la guerre quand elle est. Et en fait, le lien de Schiaparelli avec les États-Unis, il est un peu plus étroit qu'un Poiret ou un Paquin, vu qu'elle y a vécu avant même d'arriver à Paris, de fonder sa maison. Donc voilà, je la mettrai pas dans la même catégorie, quand bien même on pourrait faire des catégories, mais voilà.
Merci. merci bien. Enfin, ce n'est pas tout à fait une question, mais c'est une petite remarque et une précision pour dire qu'enfin, l'allusion de Poiret à William Morris est tout à fait fondée. Alors, il y a peut-être un raccourci de la part du journaliste, ou bien Poiret a vraiment été très très court dans ses explications, mais il est évident que c'est peut-être pas tellement à William Morris, le décorateur, qu'il fait allusion, mais à William Morris tout de même. Créateur de mode dans un temps très très court, avec ce qu'il avait appelé les robes artistiques ou bien la robe libre dans les années 1870, les propres robes que lui-même Morris avait dessinées pour Jane Morris. Et ensuite, ce mouvement qui a été repris par Henri Van de Velde dans les années 1890 et au début des années 1900, toujours sous le terme de robe artiste ou bien robe artistique, que Van de Velde s'est inspiré de William Morris et a trimballé dans toute l'Allemagne, Berlin, dans différentes villes. Et puis surtout, je crois qu'il y a la fameuse visite de Paul Poiret à Vienne en 1909, où il a été frappé par les créations d'Ivinar Werkstätte, et puis surtout par les robes que Gustav Klimt dessinait pour l'atelier de couture des sœurs Flügge. Donc oui. Là, il y a peut-être toute une filiation. Absolument, qui a été résumée par un hommage, mais il y a vraiment, c'est pas seulement un hommage, mais ça s'inscrit dans une ligne directrice très très précise. Donc en quelque sorte, Poiret peut être un descendant de William Morris, et puis surtout avec la création de l'atelier Martine.
Évidemment. Oui, non, tout à fait, c'est vrai que...
Mais du point de vue de la mode, je crois qu'il y a tout de même un sens.
Une filiation, complètement. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Après, j'avoue que ce qui m'avait amusé, c'était que ce soit le Emporia Gazette qui propose, en fait, donc au Kansas, qui propose ce parallèle de manière un peu abrupte, comme ça, sans avoir fait... En effet, c'est vrai que si on reprend un peu les points, on peut tirer un peu une généalogie de ces mouvements qui repensent le vêtement dans le champ proprement artistique. Mais voilà, c'était peut-être le raccourci qu'on retrouve aussi dans la comparaison avec le futuriste qui me faisait sourire également. Mais en effet.
Vous avez trouvé sur Internet ou vous les avez scannés? Vous avez été en bibliothèque?
Alors, j'ai principalement travaillé à partir des archives numérisées de ces différents quotidiens. J'avoue que quand Sophie m'a demandé d'intervenir, j'étais dans ma famille aux États-Unis et j'ai pu me rapprocher de la Boston Public Library qui a en ligne une grande partie de ces quotidiens nationaux. Voilà. Sinon, en 3 semaines, ça aurait été un peu dur de la rassembler. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres commentaires? Non? Non, alors merci infiniment, merci beaucoup. C'était très riche, très...
Un peu long, désolée.
Mais c'est vraiment un sujet thèse, je trouve que c'est... Oui. Ça donne vraiment envie. Merci beaucoup. Avant de vous libérer pour le week-end et certains pour les vacances, donc pour vous remercier déjà d'être restés pour cette journée qui a été passionnante, vraiment intéressante, parce que c'est ce qu'on essaie de faire, de toujours prendre un focus très précis et d'essayer vraiment de croiser le regard sur une période ou un thème, et je pense qu'on a vraiment réussi ça... aujourd'hui, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Et 3 autres informations pour vous dire qu'au mois de mai, on a deux séances à la place d'une traditionnelle. On a une visite des archives de l'INA. Alors certains m'ont déjà répondu, c'est une visite à Bry-sur-Marne dans les locaux de l'INA pour aller comprendre ce que c'est le dépôt légal, comment ils travaillent, comment ils conservent, etc. Donc il ne reste que quelques places, donc si ça vous intéresse, c'est le 13 mai à 14h. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi vite parce qu'il faut que je confirme à nos interlocuteurs, à l'INA. Et la deuxième séance, on va envoyer l'annonce ce week-end ou peut-être lundi. On organise une visite guidée de la mode, de l'exposition La mode au Moyen-Âge qui va ouvrir à la Tour Jean Sans Peur à Paris. Et on a la commissaire d'exposition, Nadège Gaufre-Fayolle, qui va nous faire une visite commentée. Donc c'est le 20 mai à 18h. Et si vous êtes nombreux à être intéressés, on programmera une deuxième visite. J'enverrai le mail de toute façon bientôt pour qu'on s'inscrive et que vous sachiez comment vous y rendre, etc. Et dernier point, on fait notre dernière séance du séminaire, c'est le 17 juin à 14h30. Et comme depuis 2-3 ans, c'est une séance de présentation de l'actualité de la recherche en mode. Donc si vous avez des idées, que vous soyez étudiant, chercheur, docteur, doctorant, conservateur, archiviste, chômeur, comme vous voulez, vous êtes les bienvenus pour présenter pendant 10-15 minutes vos recherches, vos questions, aborder les points de méthodologie ou trouver les archives. On a beaucoup tweeté là-dessus. Quand les intervenants demandaient mais où trouver Harper's, voilà. Je trouve que c'est très utile de pouvoir se réunir de manière très conviviale le 17 juin 14h30 N'hésitez pas à nous envoyer vos propositions rapidement, qu'on fasse un beau programme. Donc, vous avez d'autres mails et vous êtes vraiment tous les bienvenus, discipline, chronologie, diverses et variées. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et à bon week-end.